pense que je vais commencer par les civilités d'usage. Monsieur le Président, Monsieur le Jury, Professeur Samuel Koukou, c'est avec plaisir que je te retrouve. Tout ce mois-ci, je pense que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et c'est toujours avec grand plaisir que je me retrouve à tes côtés et que je continue d'apprendre. Je dis merci d'avoir accepté de présider ce jury et d'avoir accepté de nous avoir à tes côtés. Merci beaucoup. Je vais continuer avec les rapporteurs de ce travail. Je commence par le professeur Koum, qu'on ne présente plus ici, qui est l'auteur de tout ce qui se trouve ici, hein, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan scientifique. Ce campus a été son œuvre, hein, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a bâti. Et quand j'ai dit qu'il a bâti, il n'a pas seulement bâti les locaux de ce campus, mais il a aussi bâti des humains, des gens comme moi. Je suis son produit, donc pour ça, c'est toujours avec honneur que je me trouve à tes côtés. Pour ce confac, je pense qu'on se rencontre pour la première fois. Je t'ai toujours rencontré dans des documents. Et quand je dis qu'on se rencontre pour la première fois dans un jury, on s'est souvent rencontré ailleurs, mais pour la première fois dans un jury, vraiment c'est avec plaisir que nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Merci. Je vais me tourner vers ma soeur, la professeure Mossack. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Je ne veux pas dire que nous sommes du côté des méchants, mais on est du côté de ceux qui vont amener tout le monde à comprendre un peu mieux le travail des milliers. Donc c'est vraiment avec joie et fierté que je travaillerai à tes côtés ce matin. Voilà, ceci dit, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai parcouru le travail des milliers. Vraiment, il faudrait dire que d'habitude, les examinateurs commencent par les coups de poing, je pense. Moi, je vais commencer par des mots très gentils parce que c'est le sentiment que j'ai ce matin en présentant ce travail. Il est de haute facture, ça il faut le dire. La problématique est d'actualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parcourir et je ne demande pas que. Je ne savais pas quoi dire ce matin. J'ai fouillé partout, je me suis dit, mais. Quand elle travaillait pendant les doctorales, elle m'a rencontré aussi plusieurs fois parce que ses encadreurs ont permis qu'elle revienne vers moi. Mais il faut quand même que je puisse dire quelque chose. Et même au niveau des fautes Guilienne, j'ai fouillé, peut-être qu'il y a un petit comme ça, mais vraiment, c'est pour dire que tu as pris du temps. Et ça, je te félicite, n'est-ce pas? Tu as pris du temps. Donner quelque chose de, non seulement de digeste, mais de propre. Et ça, c'est bien. Donc, j'avais eu le plaisir d'évaluer ce travail. Donc, je commençais par mon rapport d'évaluation. Je ne vais pas le lire en intégralité, mais je vais quand même prendre quelques points. Surtout que, dans ce rapport, j'avais posé quelques questions. Je pense que j'avais posé 8 ou 10 questions. Et c'était une évaluation positive, hein, mais je m'étais dit que lors de la soutenance, les questions que j'ai posées ici, ou j'avais posées ici, c'est à ce moment qu'elles devaient être répondues. Et je pense qu'on va faire cela ici maintenant. Donc, ce travail, il respecte les normes de rédaction scientifique ou académique d'une thèse. C'est-à-dire qu'il est présenté en un volume de 2 parties, enfin, un volume de plus de 291 pages, mais avec 2 grandes parties à l'intérieur, chacune des parties à 4 chapitres. Et ce que j'ai apprécié aussi à l'époque, c'était l'abondance des références bibliographiques. On était à plus de 200 références. Et ça, cela montrait que tu avais pris la peine n'est-ce pas, de parcourir toute la littérature qui pouvait aider à présenter un travail convenable. Donc, ce travail, comme j'ai dit à l'époque, était métifait. Vraiment, il était méticuleux. L'appréciation que j'avais donnée au niveau au niveau des points forts, hein, pour moi, l'importance que mettait ce travail était que le thème sur l'évaluation des compétences, de la professionnalité et du professionnalisme, n'est-ce pas, était très important pour atteindre les objectifs 95 du VIH au Cameroun, parce qu'il visait à garantir que les 95%, parce que ça il faut le dire, n'est-ce pas, des personnes vivant avec le VIH connaissaient le statut, ou connaissent le statut, 95% de celles qui sont diagnostiquées, n'est-ce pas, reçoivent un traitement antirétroviral, et 95% de celles sous traitement atteignent une charge virale indétectable. Donc, j'avais dit qu'il était donc vital pour garantir que les efforts de lutte contre le VIH à Yaoundé soient efficaces et adaptés aux besoins des populations. Et que cela favorisait non seulement l'atteinte des objectifs, mais que cela contribue également à la création d'un système de santé plus résilient et plus durable. Et nous avons vu dans ton travail les implications, nous avons vu les retombées, et cela était pour moi convenable. Quand j'ai parlé de la portée scientifique de ce travail, dans la mesure où l'atteinte de ces objectifs, les 3,95, on dépendait fortement de la capacité à évaluer et à améliorer continuellement les compétences, la professionnalité, le professionnalisme du personnel de santé impliqué dans la lutte contre le VIH. Pour moi, il était essentiel d'investir dans la formation, le développement professionnel et la mise en place du système d'évaluation rigoureux pour garantir que les patients reçoivent des soins de qualité, respectueux et efficaces. En outre, j'ai écrit qu'il était capital de créer un environnement de travail favorable qui pouvait encourager l'excellence, la collaboration entre les professionnels de la santé et les autres acteurs. Donc, l'autre chose que j'avais appréciée, c'était l'abondance des verbatims. Vraiment, la partie qualitative, pour moi, était bien, j'ai failli dire dodu, j'ai souri en pensant à moi, était abondante. Et j'aime souvent dire que je ne comprends pas pourquoi les étudiants de l'UFD Santé publique s'amusent à faire des travaux qui me ressemblent beaucoup, tant dans leur densité. Et c'est le bâtiment vraiment nous donner, bien sûr que tu avais vraiment fait le travail toi-même. Et ma foi, la manière de travailler, de déplier, d'analyser était impeccablement faite. L'autre chose que j'ai dit ici, c'est que les références, mais ça j'ai vu que tu l'as refait, les références de Laurence Bardin étaient assez imprécises, mais dans les collections, j'ai vu que tu avais retravaillé cela. Donc, je me suis dit, c'est vrai que tu parles des 95, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Moi, je l'ai lu, j'ai compris. Je pense que pour ceux qui sont à côté de moi et des autres aussi. Et je me suis dit, il serait quand même bien de commencer par une question sur celle-là, enfin une question sur ces objectifs, pour que ceux qui sont aussi avec nous aujourd'hui puissent comprendre ce sur quoi portait ton travail. C'est pour ça que pour moi, la première question était, que signifie les 95. Donc, on va passer sur les questions et je pense que tu pourras interagir chaque fois que je poserai la question. Donc, je te passe la parole pour la première question.
Merci de me passer la parole. Les objectifs 95 ont été établis par l'UNICIDA. Le premier 95 signifie des personnes séropositives, 95% doivent connaître leur statut sérologique. Le deuxième 95 signifie 95% des personnes qui connaissent le statut sérologique doivent être mises sous traitement. Et le troisième, 95% des personnes qui sont sous traitement antirétroviral doivent avoir une charge virale supprimée.
Très bien. Maintenant, cela m'amène à te poser, que va nécessiter donc l'atteinte de tes objectifs?
Ces objectifs vont nécessiter un renforcement, parce que dans le premier 95, nous avons la prévention, le dépistage. Donc ça va nécessiter un renforcement en ce qui concerne la prévention, en ce qui concerne le dépistage. Ça va permettre de faciliter l'accessibilité aux soins des personnes qui sont vulnérables et ça va permettre également de pouvoir mieux prendre en charge les clients sur le plan psychologique ou social.
Et pourquoi l'évaluation des compétences est-elle importante?
L'évaluation, je commencerai d'abord par définir la compétence. Donc, on parle de compétence lorsque un individu possède le savoir-faire et le savoir-être. Et le fait de cette compétence est important qu'on puisse identifier les forces et les faiblesses que présente ce personnel des services sociaux pour pouvoir leur donner des éléments, des outils qui vont leur permettre d'acquérir des compétences. Donc, maintenant, si on prend sur le volet de la prévention, la compétence va permettre que le personnel des services sociaux puisse mieux faire le conseiller, par exemple, à un client sur le comportement à risque. Que ce personnel même là puisse connaître c'est quoi les mesures de prévention, notamment le changement de comportement social et comportemental, l'utilisation des préservatifs, s'il faut donner la prophylaxie, que ce soit en pré-exposition ou en post-exposition. Maintenant, sur le plan clinique, ça va permettre au personnel des services sociaux de pouvoir mieux conseiller le client afin qu'il puisse adhérer au traitement. De pouvoir voir si ce client puisse connaître les effets secondaires des différents médicaments qu'il prend et qu'il puisse mieux adhérer au traitement. Si on regarde sur le point des données, le personnel des services sociaux, ils ont des outils qu'ils remplissent, dont notamment des registres. Donc, avoir cette compétence va leur permettre de savoir remplir mieux ces registres. Et secondairement, quand on va remplir des outils secondaires, dont les logiciels qu'on utilise pour remplir des données, que ça puisse également être bien fait. Et également, ça va permettre également à ce personnel de pouvoir respecter les procédures standards. Parce que.
Pendant ta collègue, quelle est la complétude?
La complétude
en. Au niveau des registres.
Au niveau des registres. C'est vrai que dans lorsque nous avons travaillé, nous ne sommes pas axés sur les registres de chaque personnel, mais il y a des insuffisances dans le remplissage des registres. Avec parfois la surcharge de travail, ce personnel a tendance à laisser certaines cases non remplies. Donc ça nécessite qu'il soit suivi de manière quotidienne pour pouvoir mettre à jour ces informations. Parfois, ils ne remplissent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, on est obligé de faire un mentoring pour pouvoir les amener à mieux renseigner le registre. Regarder si le personnel dispose de savoir-faire, et si on trouve des gaps, des faiblesses, on amène à pouvoir améliorer les performances.
Où nous situons alors, si nous partons de données?
Dans les résultats, après avoir fait la collecte, nous sommes rendus compte que près de la moitié, donc 48% à peu près, avaient une professionnalité, une professionnalisation insuffisante.
Autre chose que je veux poser comme question, n'est-ce pas, c'est sur... Je me suis posé des questions, c'est vrai qu'on a des résultats, c'est vrai que entre ce qui vous est dit et ce que nous avons sur le terrain, parfois il y a une grande gap, n'est-ce pas? Il y a souvent une grande gap. Et l'autre chose aussi, c'est que je me suis dit, nous sommes par partie des OSD, pour les ODD. On n'a pas fait une évaluation, n'est-ce pas, des OSD. Nous avons plongé des défis pris dans les ODD. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? On ne sait pas. Même si parfois on le sait. Nous sommes entrés ailleurs sans trop savoir pourquoi nous nous y allons. Ce n'est pas parce que les deux niveaux, les contrôles de VIL, on n'a pas les mêmes contextes. Maintenant, nous sommes à ce niveau, les 95. Est-ce que nous nous sommes levés y aller comme ça? Est-ce qu'il y avait un état de lieu à faire avant? Est-ce que les questions de professionnalité et de professionnalisation étaient avec le même contenu, le même fondement, le même background? Je me pose des questions, hein. Des questions, donc moi je me tourne vers toi et je te demande, après ce que tu as trouvé comme résultat, qu'est-ce qu'il y a de faire? Ou qu'est-ce qu'il y a à faire?
Ce qu'il faudrait faire, c'est premièrement, il faut une certaine reconnaissance d'abord du profil des accompagnateurs psychosociaux, parce que les accompagnateurs psychosociaux ne sont pas reconnus à leur juste valeur, que ce soit sur ceux qui n'ont pas un cadre réglementaire établi, ils n'ont pas de protection sociale. Deuxièmement, lorsque nous avons analysé les compétences au niveau de la formation continue du renforcement des capacités, nous sommes rendus compte que il y avait une association. Et donc, il est important que ce personnel reçoive une formation continue permanente et un renforcement des capacités permanent. Parce qu'il y a une mise à jour des connaissances qui doit être faite pour permettre à ce personnel d'être update. À côté de cela, il faudrait qu'on fasse une évaluation même, parce que on utilise le personnel des services sociaux dans les formations sanitaires, mais on évalue, mais on ne présente pas les chiffres. Donc on ne sait même pas si ce personnel, je travaille à l'hôpital, je suis compétent ou pas compétent, on est venu, on va évaluer, mais on ne m'a pas dit. Donc je ne sais pas, est-ce que je dispose vraiment des compétences nécessaires pour faire le travail que je fais. Donc il serait important qu'au niveau national, qu'on mène cette étude, donc cette évaluation des compétences, et qu'elle soit visible, que chaque personnel puisse voir que lui, on a des gaps à ce niveau, nous sommes compétents ou pas. Également, il y a la formation, parce que nous sommes rendus compte que la plupart des accompagnateurs, je dirais même tous, hein, les accompagnateurs psychosociaux, ils n'ont pas une formation en lien avec cette profession. Donc, ils peuvent avoir du baccalauréat, d'autres ont même une formation en finance, mais ils se retrouvent comme accompagnateurs psychosociaux. Et lorsqu'ils font une formation, on les prend comme ça, le temps de faire une formation, c'est généralement sur une semaine. Et à la fin, même on ne leur donne pas un diplôme. Donc il faudrait qu'il y ait une réglementation concernant cette formation du personnel et qu'ils puissent avoir des diplômes en lien avec la profession.
Ce que tu dis est grave, parce que le VIH a ceci de particulier, parce qu'il touche à des aspects très délicats. Nous avons les questions de stigmatisation, les questions de perception, hein, la formation sociale de la maladie. Et c'est des moments où il faut des counseling. Maintenant, si cet accompagnateur même a un problème avec la pathologie, avec la maladie, je me demande bien comment cela se passe là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi que les questions de professionnalité et de professionnalisation devraient être prises avec beaucoup de sérieux, parce que la formation est importante. Celui qui ne croit pas en la pathologie, moi je me demande comment il fera pour conseiller. Celui qui pense que c'est une maladie de la malédiction, je me demande comment il fera pour porter le patient en face de lui. Donc, je vais peut-être te poser une dernière question et peut-être revenir un peu plus tard si ce que tu diras ou dans la discussion avec le professeur Bossard, quelque des choses qui m'intéressent encore. Donc je vais te. C'est juste vraiment en lien avec les objectifs. Hein. Donc, je me demande si les résultats, sujet que déficit. N'est-ce pas, au niveau de la formation, se situe davantage au niveau du savoir-faire technique. N'est-ce pas, de la posture, quand il dit que le savoir-faire technique, c'est pas de la compétence, c'est vrai que tu l'as un peu mentionné. N'est-ce pas, ou de la posture relationnelle éthique, là je parle de la professionnalité. Donc j'essaie de mettre les deux ensemble. À quel niveau penses-tu qu'on devrait prendre plus de temps, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre ces problèmes?
Nous devons prendre plus de temps au niveau des deux. Moi, je dirais les deux. Parce que il faudrait avoir une certaine éthique lorsque on est devant un patient. Lorsqu'on se retrouve devant un patient, si on n'a pas, on ne sait pas garder, par exemple, la confidentialité, ça expose le client. Et concernant les tâches techniques, nous avons dit tout à l'heure que les compétences techniques, il y a une mise à jour qui est faite concernant il y a une évolution dans le VIH, dans la prise en charge. Donc, il est important d'actualiser toujours les connaissances. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait s'attarder sur les deux, que ce soit la professionnalité, la professionnalisation ou bien les compétences.
Très bien. Monsieur le Président, je réaffirme vraiment la valeur de cette thèse en tant que contribution scientifique, à la fois dans le domaine de l'intervention sociale de la lutte contre le VIH. J'ai trouvé que ce travail était une excellente base pour l'amélioration des pratiques et qui démontre à suffisance que l'étudiant maîtrise son sujet. Et je la félicite aussi vraiment pour. Je dirais pas pour son engagement, pour son travail, mais pour la maîtrise, n'est-ce pas, des exercices qu'elle avait à faire. Donc je vous remercie pour avoir permis d'évaluer ce travail et de pouvoir argumenter